Chers amis, je vous propose de passer maintenant au chapitre 13, Je te promets fidélité. Je vous relis le texte du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Alors ce texte du prophète Jérémie est tout à fait intéressant parce que il se place au moment historiquement où Jérusalem est menacée par l'invasion babylonienne. Le Seigneur, par le truchement du prophète Jérémie, a annoncé et expliqué que c'est l'infidélité d'Israël qui provoque cette invasion. Et en même temps, en Israël, on ne prend pas au sérieux cet avertissement. Les notables, les princes se souviennent que la ville avait été miraculeusement délivrée lorsque les Assyriens un siècle auparavant avait mis le siège devant Jérusalem, et se disent que le Seigneur, malgré toutes ses menaces, ne laissera pas tomber la ville, que le Seigneur interviendra pour que la ville et le temple qui s'y trouvent ne tombent pas aux mains des païens. Et que du coup, eh bien, il n'est pas vraiment nécessaire de se convertir. Une espèce de conversion de façade, et puis le Seigneur reviendra sur sa décision. Il y a derrière cela, on pourrait dire, une perversion face à la miséricorde de Dieu et à son attachement vis-à-vis de l'alliance avec Israël, où l'on se demande jusqu'où on peut aller trop loin. Eh bien voilà que Jérémie l'annonce de la part du Seigneur, « Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue. » L'alliance a véritablement été rompue, et de fait, la ville de Jérusalem va tomber. Le Seigneur avait prévenu, d'ailleurs, allez voir à Silo, un lieu où l'arche avait été abritée. Eh bien, aujourd'hui, il ne reste plus rien de Silo. Il adviendra de même à Jérusalem si vous ne vous convertissez pas. Pour vous donner une image de cette fausse conversion, lorsque les Babyloniens sont arrivés une première fois, les notables, les princes du peuple ont décidé de faire grâce à tous les prisonniers, de remettre leurs dettes à tous ceux qui étaient tombés en esclavage à cause de leurs dettes, ce qui normalement en Israël devait se produire tous les 7 ans et toutes les années jubilaires, mais qui n'était plus appliqué. Et donc, lorsque les Babyloniens arrivent près des remparts, on décide d'appliquer ce que la loi dit. De fait, ça fait aussi des gens qui sont capables de se battre. Et le sort semble tourner en faveur d'Israël à ce moment-là. Et quand les Babyloniens repartent, que se passe-t-il? Eh bien, ceux que l'on avait libérés, on les emprisonne à nouveau. Voilà, le temps de la conversion n'aura pas duré plus loin que la fin du danger. Et donc ça, c'est vraiment une œuvre d'injustice grave que le prophète va dénoncer. Mon alliance, ils l'ont rompue. Et en même temps, on va voir apparaître un avenir pour cette alliance tout à fait inédit, tout à fait surprenant. Le Seigneur veut donner un avenir à cette alliance, non pas au nom de ce que le peuple aurait mérité, mais au nom de son amour et de la gratuité de son amour. Alors, je vais vous donner ici encore une petite image pour essayer d'expliquer cela. Imaginez deux personnes qui portent un brancard. Alors pour que ce soit plus simple, on imagine qu'il n'y a personne sur le brancard. Et puis il y en a une des deux qui lâche le brancard. Normalement, le brancard tombe. Le brancard tombe, sauf si celui qui tient fait un effort supplémentaire pour qu'il ne tombe pas, pour donner la possibilité à l'autre de reprendre sa place. Eh bien, c'est un petit peu ce que Dieu fait. Mon alliance, ils l'ont rompue, vous avez vraiment lâché, je prends l'image du brancard, vous avez vraiment lâché le brancard. Mais moi, le Seigneur, au nom de mon amour, au nom de la gratuité de mon amour, je décide de donner un avenir en faisant cet effort de tenir, de ne pas laisser tomber à mon tour. Et je vous invite à reprendre votre place. Et donc, on va découvrir de la part du Seigneur un deuxième type de fidélité. Il y avait une première fidélité que l'on pourrait appeler une fidélité de perfection. Dieu fait toujours ce qu'il a dit, il est fidèle à la parole qu'il a donnée. Mais voilà que l'on découvre, au nom de la gratuité de son amour, un deuxième type de fidélité que j'appellerais fidélité de miséricorde. Dieu va pardonner les fautes de son peuple pour donner un avenir à l'Alliance. Il est fidèle. Et donc vous voyez que nous est découvert une double fidélité, fidélité de perfection et fidélité de miséricorde. Et cela est important pour les couples parce que lorsque dans l'échange de vos consentements le jour de votre mariage, vous allez vous promettre fidélité pour tous les jours de votre vie, vous n'allez pas seulement vous promettre une fidélité de perfection, mais vous allez vous promettre à l'image de Dieu aussi une fidélité de miséricorde. Voilà, ça c'est vraiment un point sur lequel il faut s'arrêter et comprendre. L'engagement à la fidélité dans le mariage n'est pas qu'une fidélité de perfection, mais aussi une fidélité de miséricorde. Vous voyez, si l'on ne se promettait que fidélité de perfection, on pourrait dire que le mariage, alors, ce serait pour le meilleur jusqu'au pire. Voilà, jusqu'au moment où il se passe quelque chose de grave. Ah, il se passe quelque chose de grave ou de difficile, eh bien je m'en vais. La fidélité de miséricorde implique justement le pardon pour donner un avenir à cette alliance. Comprenons bien ce que cela veut dire, hein, quand on parle de « c'est la promesse de pardonner sans condition », parce que certains pourraient dire « ah, mais c'est un pouce au vice, ah, oh, ben puisque tu me pardonnes, pourquoi me priver ?» Alors là, ce serait justement une perversion de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le Seigneur veut nous faire comprendre ceci, c'est que parce qu'il y a un aveuglement en nous dont je peux sortir, si je dis telle chose est impardonnable, cela signifie que même si l'autre sortait de son aveuglement et revenait vers nous, on ne voudrait pas donner d'avenir à l'Alliance. Et c'est à ce moment-là, nous qui serions, je dirais, selon l'éclairage que nous donne le Seigneur, infidèle, car l'autre était sorti de son aveuglement, demandait miséricorde, et nous choisissons, alors qu'il y aurait une possibilité, de ne pas accorder cette miséricorde, de ne pas donner d'avenir à l'Alliance. Remarquez que l'on n'a pas dit que faire miséricorde serait facile, que l'on n'a pas dit non plus que ce n'était pas grave. Faire miséricorde n'a jamais été l'équivalent de dire « ce n'est pas grave, il ne s'est rien passé ». Il y a bien aussi un ordre dans l'engagement. Il y a d'abord cet engagement, on pourrait dire, de fidélité, de perfection, qui est première chose, hein, c'est vraiment la première chose. Et puis, deuxième temps, fidélité de miséricorde, lorsque cela sera nécessaire. Mais il y a d'abord un engagement de justice, avant d'avoir cet engagement de miséricorde, comprenons-le bien, ce n'est pas un pouce au crime. Cela nous amène alors à nous pencher sur ce que l'on appelle le pardon. Et c'est pour ça que je vous avais demandé de réfléchir à quelques questions. Je vous avais d'abord demandé, que faut-il pour qu'une demande de pardon soit vraie ? C'est-à-dire, vous êtes celui qui a commis l'offense, que faut-il que vous compreniez, à quoi faut-il que vous vous engagiez pour que, lorsque vous dites « je te demande pardon », ce soit vrai. Parce que lorsque vous dites « je te demande pardon », ce ne soit pas du pipeau, passez-moi cette expression triviale. Le premier stade pour qu'une demande de pardon soit vraie, c'est une prise de conscience. Voilà, c'est que je dois prendre conscience que je t'ai fait du mal. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est le regret. Parce que vous pouvez avoir une prise de conscience, oui, c'est bien moi qui ai fait cela, je t'ai fait du mal, et je ne le regrette pas du tout, mais alors là, on va nulle part. La deuxième étape, c'est, suite à la prise de conscience, un regret. Et un regret que l'on va qualifier, d'ailleurs, dans le domaine religieux, avec un mot particulier, on va le qualifier de contrition. La contrition, c'est une qualité particulière du regret, où l'on éprouve une peine de cœur, si on peut dire, qui rejoint la peine du cœur que l'on a causée à l'autre en piétinant son amour. Non seulement j'en ai conscience, mais il y a une peine dans mon cœur qui goûte quelque chose de la peine que je t'ai causée quand j'ai piétiné ton amour. Mais qui est en fait, on pourrait dire, un acte de communion. Par ma faute, par mon péché, par le mal que je t'ai fait, je t'ai envoyé au quatrième sous-sol. Eh bien, pour que la communion soit rétablie entre nous, il faut que je comprenne quelque chose, que j'éprouve quelque chose de la douleur que tu as éprouvée. Alors, ce sera évidemment quelque chose d'analogique, c'est ce qu'on va appeler, il y a une compassion, il n'y a pas une passion directe, il n'y a que le Seigneur qui sait directement ce que l'autre a subi. Moi, il y a une compassion, je vais m'en approcher, mais de fait, il y aura une certaine distance que je ne peux pas combler. Mais je peux m'en approcher, et dans la contrition, justement, je demande, dans la contrition parfaite, je suis au plus proche, et donc une compréhension, je rejoins l'expérience de la vie de l'autre. Alors, nous savons que la contrition vraie, c'est un don de Dieu. Voilà, c'est une chose qu'on demande au Seigneur, d'avoir une contrition parfaite, qui nous aide à entrer dans cette contrition parfaite. La contrition, on la distingue de l'attrition. Alors l'attrition, c'est le regret qui est provoqué par la peine encourue. Voilà, je regrette très fort parce que tu m'avais menacé d'une fessée et j'ai pas du tout envie de la recevoir. Alors je regrette, mais c'est plus la peur de la fessée ou la douleur de la fessée qui me fait regretter plutôt que la compréhension de l'amour que j'ai piétiné. Voilà, c'est un degré encore imparfait. L'attrition, c'est encore un mode imparfait du regret. Alors c'est déjà mieux que ce que j'appellerais le regret orgueilleux qui peut aussi survenir. Qu'est-ce que c'est le regret orgueilleux? C'est celui qui se dit « Ah, j'ai fait ça, oui, je t'ai fait du mal. Je regrette vraiment parce que c'est pas du tout l'image que je voulais donner. L'image que je veux donner de moi, c'est un type bien, c'est un type qui fait les choses proprement. Et là, vraiment, non, je me suis vautré et je regrette vraiment de donner cette image de moi aussi déplorable. » Je suis à ce moment-là tout tourné vers moi. Voilà, c'est mon orgueil qui pousse un cri, mais je n'ai que faire, je n'ai cure de ce qui t'est arrivé à toi et de la douleur que tu as pu ressentir. Donc, deuxième point de la vraie demande de pardon, après la prise de conscience, une vraie contrition. Et puis, il y a une troisième étape, qui est l'engagement à ne pas recommencer. Oui, ça fait vraiment partie de la demande de pardon. Je t'ai fait du mal et je m'engage à ne pas recommencer. C'est une chose vraiment importante. C'est pas simplement oui, je regrette ce que j'ai fait. Non, je le regrette assurément, mais je m'engage à ne pas recommencer. Et cet engagement doit s'accompagner d'un élément objectif, qui est de prendre les moyens nécessaires. Voilà, c'est non seulement je m'engage à ne pas recommencer, mais en plus je prends les moyens pour que cela ne se reproduise pas. Voilà, vous imaginez la personne qui dit j'arrête de boire, mais qui garde dans son tiroir sa bouteille de whisky. Ben, il y a peu de chances que Il arrête, il ne se met pas dans les conditions pour arrêter. C'est une chose importante, hein. On est appelé à ne pas se mettre en danger de recommencer. Donc il y a parfois des mesures très importantes à prendre, réorganiser sa façon de vivre, les personnes que l'on côtoie, pour ne pas nous mettre en situation de danger. Et il y a des moments où on est déjà plus libre d'agir. Je prends cet exemple trivial. Si vous mettez la main dans le feu, vous n'êtes pas libre de ne pas brûler. C'est avant que vous pouviez ne pas brûler. Mais quand vous l'avez mise dans le feu, ça brûle. Et j'allais dire même, soyons prudents, parce que vous savez que si vous tenez, par exemple, un cierge, vous ne le mettez pas directement dans la flamme, mais suffisamment près à l'extérieur de la flamme, arrive un moment où le cierge va s'enflammer. Donc à côtoyer la zone de la tentation, je me mets en danger. C'est pour cela que le Seigneur disait, si ton œil t'entraîne à pécher, coupe-le, arrache-le et jette-le loin de toi. Il ne nous appelle pas à un acte physique aussi radical, hein, s'il y a une image qui est utilisée, mais l'image veut bien dire couper l'objet de la tentation et mettre une distance suffisante pour ne pas être attrapé. Donc les trois éléments de la demande de pardon, prise de conscience, vraie contrition, engagement à ne pas recommencer en s'en donnant les moyens. Alors maintenant, on va inverser les rôles et on va se placer du côté de celui qui a été offensé. Que faut-il pour que, lorsqu'ils disent « je te pardonne », ce soit vrai? Alors on va imaginer que l'on est face à une vraie demande de pardon pour simplifier les choses. Alors la première étape, on voit la première chose qui s'oppose à ce que je puisse te dire « je te pardonne », c'est la violence et la rage qui peut être en moi, c'est la colère qui peut être en moi avec sa rage et sa violence suite à l'offense que tu as commise contre moi, suite à l'injustice que tu as commise contre moi. Parce que, ben, de fait, tu as peut-être beau le reconnaître, mais quand je te vois et que c'est toujours douloureux en moi, et ce que j'ai envie, c'est de te taper. Voilà. Et donc, la première chose, c'est de prendre acte de cette violence qui est là. Prendre acte de cette violence qui est là. En prendre acte, parce que parfois on la nie, mais on va en fait entretenir ce que j'appellerais une colère froide, une colère rentrée. Mais c'est un lac d'acide dans notre cœur qui le ronge et qui le détruit. Alors on pourrait dire, face à ça, est-ce que ça ne vaut pas mieux qu'une espèce qu'on appelle une colère rouge, ou alors on explose dans tous les sens, on est comme un volcan, et un volcan avec ses jets de lave qui peuvent tout détruire sur leur passage. Allez, mais l'alternative, justement, c'est pas colère blanche ou colère rouge. L'alternative, c'est ne savoir rien faire de sa colère ou de la confier à Dieu. C'est très intéressant, dans le livre des psaumes, on voit justement le psalmiste souvent, quand il est confronté à l'injustice, qui fait monter vers le Seigneur sa colère avec toute la violence qui peut être en lui. Et vraiment toute la violence qui peut être en lui. Je vous cite un exemple. Vous connaissez, je pense, tous la chanson « By the Rivers of Babylon » de Bonnie M. C'est « By the Rivers of Babylon ». Voilà. C'est un psaume, en fait. Ce sont les strophes d'un psaume qui ont été mises en musique, sauf qu'on ne vous a pas donné la dernière strophe. La dernière strophe qui dit « Heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, Babylone, heureux qui fracassera tes petits contre le roc. » Oh, ben c'est pas très sympathique, ça. Fracasser les petits-enfants contre le roc. Eh oui, parce que les Babyloniens qui étaient réputés pour leur cruauté, c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont pris Jérusalem. Ils ont pris les petits-enfants de la population et ils les ont fracassés contre les murailles. Eh bien, ça, le peuple ne peut pas dire « c'était pas grave ». Ceux qui ont perdu leurs enfants ainsi, ça crie en eux, avec violence, avec rage. Et cette rage, il faut bien en faire quelque chose, parce que si je la garde simplement en moi, j'en suis détruit par ce lac d'acide. Si je la fais exploser, mais je vais devenir meurtrier comme les autres, alors je la fais monter vers Dieu. Et je la fais monter vers Dieu en la décrivant avec, j'allais dire, toute la précision nécessaire qui correspond à ce qui se passe dans mon cœur. Parce que cette étape-là, c'est l'étape qui va permettre de dire, Seigneur, je t'offre mon cœur et sa violence, je t'offre mon cœur et sa peine et sa rage, pour que toi, tu me donnes ton cœur et sa paix. C'est à toi que je demande justice, je ne me fais pas justice moi-même en devenant un bourreau supplémentaire. À toi je demande justice et à toi je demande aussi ce cœur qui peut connaître la paix. Vous voyez, en fait, on prend au sérieux ce que le Christ est venu faire. Il n'y a que le Christ qui est capable de dire du haut de la croix, Père, pardonne-leur. Il faut bien comprendre ça, hein, parce que si on était capable de le faire tout seul, c'était pas la peine qu'il vienne. On se serait très bien débrouillé, Seigneur, non, mais ne va pas mourir sur une croix, on y arrive très bien. Mais non, Seigneur, tu meurs sur la croix parce que nous étions incapables d'aller au-delà de notre rage. Et donc, Seigneur, je viens t'offrir mon cœur et toute sa rage, mais toi, donne-moi ton cœur et sa paix. Et je vais commencer à dire ces paroles qui sont les tiennes. Père, pardonne-leur. C'est une très belle parole, hein, parce que des fois, on n'est pas encore capable de dire je te pardonne, c'est trop dur. Mais je peux déjà commencer à dire Père, pardonne-leur. Et ce qui manque à mon cœur pour que ce soit vrai, Seigneur, ton cœur que je demande viendra le combler, viendra combler ce qui manque. Et vous voyez, cette prière-là, si on a besoin de la faire 100 fois, bon, on la fera 100 fois. Si on a besoin de la faire 30 000 fois, on la fera 30 000 fois jusqu'à ce que notre cœur soit apaisé. Mais on peut entrer ainsi dans une vraie démarche de miséricorde. Vous voyez donc, ce premier point, confier notre colère à Dieu, prendre le temps de la dire, hein, mais vraiment, j'insiste là-dessus, prendre le temps de la dire. Parfois on va trop vite avec notre intelligence. Seigneur, je te confie ma colère. En 5 secondes, c'est fini, sauf que notre cœur n'a pas commencé à parler. Dans les psaumes, vous verrez que le psalmiste décrit, j'allais dire, même les horreurs qui voudraient qu'il arrive à celui qui lui a fait du mal. Eh bien, prenez devant le Seigneur, voilà, Seigneur, devant toi, je vais te dire tout ce que j'avais envie de faire. Après ce qu'il m'a fait, j'avais envie de prendre une batte de baseball et lui enlever toutes les dents. Et s'il était encore debout, de lui sauter dessus à pieds joints avec des chaussures cloutées. Et s'il restait encore quelque chose, de le jeter par la falaise, et puis de le mettre au four et de disperser ses cendres, je ne sais pas où. Prenez le temps de déposer en Dieu votre rage telle qu'elle est. Ne la sous-estimez pas. Lui seul est capable d'en faire quelque chose. Donc, premier temps, confiez notre violence, notre colère à Dieu. Deuxième temps, acceptez que cela prenne du temps, que la blessure soit apaisée. Vous voyez, quand une blessure a été profonde, physiquement, il faut du temps pour que ça se remette. Il y a une convalescence qui est plus longue que pour une petite écorchure. Eh bien, de la même façon, quand vous avez reçu une blessure profonde dans votre cœur, il faudra du temps pour qu'elle s'apaise. Et ce n'est pas un refus de pardonner de dire il faudra du temps pour que la blessure s'apaise. De la même façon que ce n'est pas un refus de pardonner de dire qu'il faudra du temps pour que la confiance se rebâtisse. Une confiance qui a été renversée, mise en morceaux, prend du temps pour se rebâtir. Ce n'est pas un refus de pardonner. Je peux dire en vérité, je te pardonne, en intégrant cela, il faudra du temps pour que la blessure s'apaise, et il faudra du temps aussi pour rebâtir confiance. Vous savez que dans la loi scout, dans le scoutisme, on disait le scout met son honneur à mériter confiance. Mais oui, la confiance se mérite, se construit. Si elle a été saccagée, eh bien elle devra être, j'allais dire, patiemment rebâtie. Troisième point, après donc cette colère confiée au Seigneur, après l'acceptation du temps à l'apaisement et à la reconstitution de la confiance, la troisième étape, c'est un acte de foi. que le cœur de l'autre est vraiment contrit. Oui, il y a là un acte de foi parce que je ne dispose pas d'un petit appareil comme pour la température. Voilà. Si je veux savoir si j'ai de la fièvre, je prends un thermomètre et j'ai ma réponse objective. J'ai de la fièvre ou je n'ai pas de fièvre, le thermomètre me le dit. J'ai pas un petit appareil qui me permet de mesurer la contrition. Là, bip, 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 bip. Oh, belle contrition. Bip, bip. Ah non, doit mieux faire. Je ne l'ai pas. Et donc, il y a une confiance. Il y a une foi qui va devoir s'exercer, qui peut être cependant éclairée aussi par les moyens objectifs qui sont mis en œuvre par l'autre pour ne pas recommencer. Et s'il ne met pas en œuvre ces moyens, je peux le lui faire remarquer. Tu me demandes pardon, mais tu ne prends pas les moyens pour que cela ne se reproduise pas. Tu continues à voir la même personne. Tu continues à avoir le même comportement. Tu continues à te mettre dans les circonstances qui t'ont déjà fait déraper. Voilà, cet acte de foi, en même temps, avec la clarté par rapport aux moyens mis en œuvre pour ne pas recommencer. Et puis, il y a un quatrième et dernier point. Ce quatrième et ce dernier point, c'est l'espérance que Dieu saura transformer la blessure que j'ai reçue, que Dieu saura même donner une fécondité à cet événement douloureux qui était une tâche objective dans notre passé. Comment cela ? En fait, c'est le principe, je dirais, des blessures glorieuses du Christ ressuscité. Vous voyez, le Christ ressuscité ne revient pas en disant « Regardez mes mains et mes pieds, il n'y a plus rien, rien ne s'est passé, c'est comme si rien ne s'était passé, l'histoire n'a pas eu lieu. » L'histoire a eu lieu. On peut voir les stigmates, mais voilà que les blessures qui faisaient mourir ne font plus mourir. Voici que les blessures qui faisaient mourir sont devenues des plaies glorieuses, témoignant l'amour et donnant la vie. Eh bien, c'est cela que nous espérons en faisant miséricorde, que Dieu saura faire de cette plaie de notre passé une plaie glorieuse, un événement fécond, un événement qui donne la vie. Et cela est possible par sa présence. C'est sa présence qui donne une fécondité à ceux qui en soi n'en avaient pas. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, j'avais accompagné une équipe de couples, et parmi cette équipe de couples, il y en avait un qui venait d'avoir leur premier enfant, une petite fille. À l'intérieur de ce couple, il y en avait un autre, ils avaient déjà 3 enfants. Et le mois suivant, après la naissance de la petite fille, quand on revoit ce jeune couple de parents, ce couple de jeunes parents donc, ils arrivaient avec une tête grise, verdâtre, tendue, triste aussi. Et ils témoignaient, non, ça va pas bien du tout, on n'y arrive pas, on s'est jamais aussi mal parlé que ça. Vraiment inquiet, quoi, se demandant, mais est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Est-ce que c'est pas au-dessus de nos forces? On n'y arrive pas. Et c'est le couple qui avait 3 enfants qui leur a posé quelques questions en leur disant, mais votre petite fille, là, elle fait pas ses nuits encore. Ah non, ça, elle fait pas ses nuits. Et toi, au boulot, c'est toujours aussi tendu, la pression n'a pas tombé. Non, 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 c'est de fait, c'est toujours difficile. Et donc, le soir, quand vous rentrez, vous avez le temps de parler un petit peu? Ben non, parce qu'il faut s'occuper de la petite. Et petit à petit, ils leur ont fait prendre conscience que, en fait, ce n'est pas étonnant que vous soyez dans cet état. Vous n'arrivez plus à dormir, donc vous êtes épuisé. Vous avez un rythme qui a complètement changé avec la naissance de la petite, et vous n'avez plus ces moments où vous pouviez échanger paisiblement. Donc, tous vos repères ont sauté. Donc l'état dans lequel vous êtes, c'est pas parce que vous êtes moins bon que les autres ou que vous n'y arrivez pas, j'allais dire, c'est normal parce que tous vos repères ont sauté. Mais, alors peut-être bonne nouvelle, normalement, à partir de 3 mois, l'enfant fait ses nuits, donc c'est pas pour toujours que vous ne dormez plus. Et puis, ensuite, vous avez la possibilité aussi de demander de l'aide. Hein. Si vous avez besoin de faire garder la petite pour pouvoir garder, pour pouvoir dormir un moment 4 heures, ben vous avez le droit. Si plus tard, il y a un moment où vous voulez pouvoir avoir un dîner à deux, là aussi vous la faites garder, vous avez le droit. Il faut prendre soin de votre couple aussi, qui est le socle de votre famille. Alors évidemment, si vous ne voyez vos enfants plus que 2 heures dans une semaine parce que vous prenez tout le reste du temps pour vous, il y a un problème. Mais il y a bien cette possibilité de reprendre des forces pour sortir, j'allais dire, la tête de l'eau, pour reprendre une respiration, si je prends cette image du nageur. Et en fait, ils leur ont permis de reprendre pied. En leur, j'allais dire, expliquant un peu leur situation et puis en donnant, je dirais, d'autres petits conseils concrets, ils leur ont permis de reprendre confiance. Mais comment ont-ils su, comment ont-ils pu leur venir en aide? Eh bien, c'est que plusieurs années auparavant, c'est eux-mêmes qui s'étaient trouvés dans cette situation à se parler mal, à se parler avec agressivité à cause du manque de sommeil, à cause de la tension. C'est eux-mêmes qui, des années auparavant, avaient eu cette tâche dans leur passé, mais ils avaient choisi de se faire miséricorde. Et ce jour-là, cet événement de leur passé est devenu un événement duquel ils ont pu tirer un conseil de vie. Ce jour-là, cet événement du passé qui était une tâche, véritablement, une blessure, est devenu un acte qui a reçu d'être fécond en aidant à la vie d'un autre. Eh bien, c'est aussi pour cela que l'on fait miséricorde. On fait miséricorde dans cette confiance que Dieu, par sa présence, permettra de tirer une fécondité de cet événement douloureux qui, aujourd'hui, n'a aucune fécondité. Nous faisons confiance que le Seigneur, nous espérons que le Seigneur fera de notre plaie une plaie glorieuse. Donc, en somme, les 4 étapes pour que un « je te pardonne » soit vrai, confier sa violence, la colère violente à Dieu, accepter le temps de l'apaisement de la blessure et la reconstruction de la confiance, cet acte de foi que le cœur de l'autre peut être vraiment contrit, avec cette vigilance par rapport aux moyens pris pour ne pas recommencer, et puis cette espérance que Dieu saura transformer cette blessure, cette plaie, en une plaie glorieuse, en un événement capable de donner la vie, en un événement capable de venir en aide. Voilà ce que je voulais vous dire autour du chapitre « Je te promets fidélité ».